France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, quel accompagnement scolaire pour les enfants en situation de handicap? On fait le point, un peu plus d'une semaine après la rentrée, car visiblement, même si le nombre d'accompagnants est en progression depuis quelques années, comme le gouvernement l'avait promis, le compte n'y est toujours pas. Beaucoup de parents font savoir qu'il n'y a pas d'AESH pour leur enfant, ou alors quelques heures par semaine seulement. Les AESH, elles, et je dis elles, car ce sont majoritairement des femmes, se plaignent de leur statut et de leur rémunération qui, la plupart du temps, ne leur permettent pas de vivre et les obligent à trouver un complément d'activité. Elles ont tenté de se faire entendre à plusieurs reprises ces derniers mois lors de journées d'action, d'autant que le système des PIAL, on verra ce que c'est, mis en place pour mutualiser leurs services a encore accentué le malaise, c'est ce qu'elles disent. Elles nous expliqueront pourquoi. Pourtant, ces accompagnants sont essentiels pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants. Comment faire pour améliorer la situation? On en parle ce soir avec vous, au standard du téléphone sonne, et vous êtes déjà très nombreux. On en parle également avec nos invités, ici en studio, que je salue. Bonsoir Sophie Cluzel.
Bonsoir.
Secrétaire d'État aux personnes handicapées, merci d'être là ce soir. Anne Falciola, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes AESH, autrement dit accompagnante d'élèves en situation de handicap. Vous travaillez dans un collège de l'Ain, vous êtes représentante de la CGT Éduc Action, c'est bien ça. Bonsoir Sophie Biette.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Surtout, je le disais, n'hésitez pas à nous appeler, mais vous êtes déjà très nombreux. D'avance, merci à nos standardistes, merci à Valentin Pérez qui scrute vos mails. Merci aussi à ceux qui sont à la console technique de ce 18-20, Arnaud Caillé, Ludovic Asselot et Philippe Duclos.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous allons à Lyon retrouver Myriam. Bonsoir Myriam.
Bonsoir à toutes.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter. On me dit que vous êtes représentante d'un collectif de parents d'élèves.
Et oui, et le collectif des parents d'élèves en faveur des AESH. Alors, ce collectif il est né en décembre dernier à la suite d'une pétition. On a remarqué avec d'autres parents de non-troisième que ponctuellement, il y avait des actions un peu médiatiques de parents qui réclamaient une AESH qui était enlevée du vendredi pour le lundi ou pas du tout attribuée pour que leur enfant soit scolarisé en milieu ordinaire, donc en école classique. Donc moi, mon expérience est maternelle et élémentaire, comme toutes les mamans hein, du collectif. On a l'appui, un appui formidable des élus de Lyon. Je citerai aussi Madame Prin, hein, qui est géniale, vraiment, l'adjointe à l'éducation du 3e arrondissement. On a même réussi à travailler avec les AESH du Rhône et de la métropole et bien évidemment être présente à leur côté lors des grèves qui ont eu lieu en avril et en juin dernier.
J'essaie de comprendre, Myriam, où vous voulez en venir. Vous soutenez les AESH, vous les réclamez, vous avez une solution dans votre établissement. Expliquez-nous en deux mots. Puis
voilà, en fait, nous, on constate que les enfants en besoin particulier sont nombreux avec des besoins divers, mais que la plupart du temps, les notifications NDPH ne sont pas suffisamment suivies. Donc c'est un petit peu compliqué, il y a des aides individuelles et des aides qu'on appelle mutualisées, donc une personne qui s'occupe de plusieurs enfants ou une personne qui s'occupe que d'un seul enfant. Le problème c'est qu'on a 24 heures d'enseignement et les AESH qui ne peuvent pas être des 24 heures d'enseignement.
Bon, je crois qu'on a compris, Myriam. Merci pour cette entrée en matière. En tout cas, Myriam nous dit que les AESH, c'est très important là-dessus. Mesdames, je suis sûre que vous êtes toutes les trois parfaitement d'accord. Elle a l'air de nous dire aussi qu'il y a un problème de mutualisation. Alors, je vais passer la parole peut-être à Anne Falciola pour commencer. C'est quoi cette histoire de mutualisation? On vous demande éventuellement d'unir d'aller dans plusieurs établissements, c'est ça?
Oui, alors là je pense que les propos de Myriam retenaient spécialement le fait que on était notamment amené à accompagner simultanément plusieurs élèves, que les besoins en accompagnement ne sont pas couverts. On a beaucoup de retours sur ce sujet-là, mais la problématique de la mutualisation des moyens, c'est vraiment un gros point noir pour nous, parce que on ne peut pas demander concrètement à un AESH dans une classe, d'accompagner simultanément un jeune autiste avec une notification MDPH, un jeune qui a un handicap moteur et un jeune qui a des troubles spécifiques, des apprentissages, du langage. On nous demande maintenant de faire tout à la fois en nous disant que C'est ça, en fait, qui va les aider à devenir autonomes. Mais la marche forcée, l'autonomie, ça fonctionne pas comme ça. Ça se construit, ça se co-construit dans le temps, dans la durée et dans la régularité. Et je pense que voilà, il y a deux gros problèmes qui ont été soulevés.
On va peut-être laisser Sophie Cluzel répondre et puis on reviendra notamment sur ce que disait cette dame à propos des notifications à MDPH. Mais peut-être sur cette question de la mutualisation d'abord, Sophie Cluzel.
Alors d'abord peut-être expliquer ce que le métier qu'est l'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et je tiens à les saluer en ce jour de rentrée ainsi que les enseignants pour tout le travail formidable qu'ils font. Tous les enfants n'ont pas besoin d'AESH, déjà il faut le dire, puisque nous avons plus de 400 000 élèves scolarisés, plus de 60% à peu près d'élèves qui ont besoin d'AESH. C'est une progression fulgurante, c'est 20% de plus d'élèves scolarisés depuis la rentrée scolaire 2017. C'est 35% de plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap en poste depuis 2017. C'est 100% des AESH qui sont contrat éducation nationale. Quand on est arrivé, vous aviez à peu près la moitié d'entre eux qui étaient en contrat aidé. Donc avec des ruptures de contrat et que des contrats de 10 mois. Donc aujourd'hui, ils ont tous un contrat de 3 ans, renouvelable une fois, c'est le statut pour rentrer dans l'éducation nationale, et après ils peuvent être CDIsés. Alors là, ça c'est pour, je dirais, la fonction et ce métier si important que sont les accompagnants, et je tiens encore une fois à les saluer.
On reviendra sur ce statut et le problème des 3 ans et des 3 ans, Sophie Cluzel, mais sur la mutualisation. Alors, ce que nous disait Anne-Fanny,
d'abord, il faut d'abord expliquer quelle est l'évaluation des besoins de l'enfant. Et ça, c'est la maison départementale des personnes handicapées qui sont gérées par les départements. Ils évaluent les besoins. S'il y a un besoin soutenu et continu, c'est une AESH individualisée avec une quotité horaire. Parce qu'il a été jugé que, par exemple, cet enfant a besoin de 18 heures vraiment en action soutenue et continue. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas à temps plein à l'école, attention. Mais que cette action soutenue et continue, ça peut être du 24 heures, vraiment, selon les... On a énormément de variations de situation de handicap.
Ça veut dire qu'une AESH peut s'occuper de plusieurs enfants qui ont plusieurs handicaps différents.
Une AESH peut s'occuper de plusieurs enfants, bien sûr, et c'est presque la règle, je dirais, nationale.
Et vous comprenez que ce soit compliqué ?
Non, mais attendez. Donc ça, c'est l'AESH avec individualisée, avec une quotité horaire. Elle peut être aussi individualisée, c'est-à-dire seule à côté de l'enfant pendant 24 heures, pour les enfants qui sont vraiment en dépendance d'un accompagnement. Et puis, vous avez une notification, c'est-à-dire qu'on notifie une AESH mutualisée. Ça veut dire quoi mutualiser ? Ça veut dire que quand l'AESH sera présente dans la classe, dans l'école, quand l'enfant sera présent, il y aura un emploi du temps qui sera fait. Et l'AESH pourra peut-être intervenir le matin, puis après l'après-midi, puis de nouveau le matin, et les autres temps, elle accompagnera un autre enfant. Mais ce n'est pas un accompagnement simultané, bien sûr que non. C'est-à-dire que l'enfant dans la classe de CE1 aura son AESH sur une matinée ou 2 heures ou 3 heures, selon ses besoins, et puis après, l'AESH s'occupera d'un autre enfant sur un autre temps de la semaine.
Et l'enfant n'aura pas forcément d'accompagnant tout le temps.
Mais l'enfant n'a pas besoin forcément d'accompagnant tout le temps, il faut le dire. Vraiment, l'enseignant est là, et d'abord, avant tout, comme responsable, justement, des adaptations d'apprentissage, des temps de...
En tout cas, Sophie Cluzel, si je peux me permettre, on va essayer de...
Non, mais ça c'était pour expliquer ce que c'est que la différence entre individualisé et
mutualisé. D'apporter des réponses un peu courtes, parce qu'il y a beaucoup de monde au standard ce soir. En tout cas, ce que nous disait Myriam à Lyon, c'est que ça posait un problème. Anne Falciola nous dit la même chose. J'aurais tourné vers Sophie Biette, qui représente les parents d'élèves. Qu'est-ce que, sur cette question de la mutualisation ?
Alors, je ne représente pas tout à fait les parents d'élèves, exactement, puisque ici, je suis invitée au titre de ce que dire de... l'éducation spécialisée qui est validée aussi par l'État, c'est-à-dire que des enfants handicapés à la MDPH peuvent recevoir une notification à la fois effectivement pour l'accompagner à l'école, mais donc les AESH dont on parle aujourd'hui, mais aussi ils peuvent avoir besoin d'accompagnement spécialisé que les associations comme les nôtres vont pouvoir donner. En revanche, il est vrai qu'aujourd'hui, on est à peu près la même difficulté que ce que dit madame, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de notifications que d'offres. Donc, on essaye de travailler à ce que, de partager, mais le delta entre les deux est quand même un petit peu important. Et ce que je voulais aussi dire ici, et je pense que c'est important pour les parents là qui nous écoutent, c'est que à la fois, je veux dire, scolarisation à l'école ordinaire et accompagnement spécialisé, éducation spécialisée, on travaille ensemble et les enfants ont besoin des enfants, en tous les cas, ont besoin des deux. Et que parfois, ce qui peut arriver, c'est que effectivement, on va avoir ce qu'il faut au niveau de l'accompagnement scolaire, mais il va manquer quelque chose au niveau de l'accompagnement éducation spécialisée ou l'inverse. Et c'est ça qui peut mettre les familles ou les enfants en difficulté. Notre objectif principal, et c'est pourquoi je milite aussi depuis 25 ans, c'est qu'on réponde aux besoins de l'enfant, mais aux besoins d'apprentissage, mais scolaire bien sûr, mais il y a d'autres formes d'apprentissage dont il a aussi, qu'il a besoin d'acquérir, et que leurs parents puissent, entre 9h du matin, je veux dire, et 17-18h, en fait, pas trop entendre parler de leur enfant. Donc, ces deux conditions, aujourd'hui, nous militons pour qu'elles adviennent. Il y a encore du travail, Madame la Ministre, ça c'est sûr. Mais c'est ce pourquoi on milite.
Faut pas désespérer. Nous avons Emmanuelle au bout du fil, qui est enseignante, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Emmanuelle.
Oui, bonsoir. Alors, je vous appelle pour vous raconter la situation. Donc, à une semaine de la rentrée, dans mon école maternelle, où il y a 90 élèves et 4 classes, nous avons 5 élèves en situation de difficulté. Et sur ces 5 élèves, pour le moment, il n'y a qu'une seule AESH mutualisée, donc pour 2 élèves. Les 3 autres n'ont encore personne. Alors, le PIAL est désolé, hein, ils ont des problèmes de recrutement, ils n'arrivent pas à recruter.
On précise juste que le PIAL, c'est cette institution qui permet de...
C'est pas une institution, c'est une organisation de l'éducation nationale, c'est des pôles d'inclusion d'accompagnement localisés, au plus près, vraiment, des écoles, des collèges et lycées, pour organiser justement les ressources.
On laisse Emmanuel terminer. Emmanuel, c'est à vous.
Donc, pour le moment, le PIAL n'a pas de solution de recrutement. Ils ont des problèmes de recrutement. Sur les 3 élèves qui ne sont pas accompagnés, un est en très grande difficulté, n'est pas propre, a besoin de change, a besoin d'attention de tous les instants, se sauve de la classe, donc a vraiment besoin d'un accompagnement individualisé. Le dossier a été envoyé à la Maison du Handicap en novembre 2020, ça va faire un an. Et il n'y a toujours aucune solution pour cet enfant. Donc cet enfant vient de faire sa rentrée. Et bien au bout d'une semaine, voilà, la maîtresse est donc seule avec lui, plus ses 25 autres élèves. Donc c'est extrêmement compliqué. Les parents ont pris des jours de congé pour pouvoir faire une rentrée en douceur, pour qu'il ne soit scolarisé que le matin. Les congés vont bientôt prendre fin. Et dans une semaine, la maîtresse va se retrouver de 9h à 16h30 avec cet élève qui a vraiment besoin de situations individualisées. L'année dernière, on a attendu pendant 5 mois 2 AESH. Pendant 5 mois, il n'y a pas eu 2 AESH. Il a manqué 2 AESH sur mon école.
Donc, merci Emmanuel, merci beaucoup pour ce témoignage. Sophie Cluzel, les faits sont là.
Les faits sont là. Ce que j'ai entendu surtout, c'est que la MDPH de Paris n'a pas répondu depuis un an. Et ça, c'est intolérable. Normalement,
ça veut dire
c'est
qu'elle n'a peut-être pas les moyens suffisants, la MDPH de Paris.
Oui, bien sûr que si, que la MDPH de Paris a des moyens. Heureusement. Heureusement que la MDPH de Paris, comme toutes les MDPH d'Île-de-France, elles ont des moyens. Là, on dit que le dossier n'a pas été étudié. Alors que c'est 3 mois, normalement. Et c'est l'enjeu que j'ai fixé à tous les présidents de département, de pouvoir accélérer ces réponses. Il faut bien savoir que ce problème-là, il est crucial. La demande a été faite bien en amont par les familles pour préparer cette rentrée scolaire. Au bout d'un an, toujours pas de réponse. Comment fait-on ? Eh bien, c'est normal que l'enfant vienne frapper à la porte de l'école et soit scolarisé. Donc là, je dis à l'enseignante, à Emmanuel, solliciter l'équipe mobile d'appui de scolarisation tout de suite pour ne pas rester seul et pour que cet enfant puisse être accompagné. Ce sont des moyens médico-sociaux qui ont été mis en place. Il y en a qui se sont développés. Dans Paris, elles sont opérationnelles. C'est un binôme et c'est grâce aussi à la coopération avec les associations gestionnaires, hein, comme l'UNAPI, comme la PAGE, comme toutes ces associations-là. Elles sont mobiles, elles sont effectives. J'y suis allée à l'inspection académique, elles sont là.
Merci.
On peut avoir un éducateur, un psychologue qui intervient tout de suite dans l'école de madame. Madame, ne restez pas seule, faites appel à l'équipe mobile d'appui de scolarisation.
Voilà pour cette réponse très précise. Emmanuel, Sophie Biette, sur ce genre de situation de retour que vous...
Oui, alors il est tout à fait vrai que cette question du délai des maisons départementales du handicap est souvent un souci. Et surtout qu'on se rend compte qu'il faudrait pratiquement, c'est pire que de déposer un dossier pour rentrer dans une grande école, c'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement savoir à l'âge de 3 ans, au mois de janvier ou décembre de l'année précédente, quels sont les besoins de l'enfant pour espérer avoir la notification à temps. Et donc que l'éducation nationale soit au courant du nombre d'AESH qu'il doit recruter. Et ça, c'est un véritable enjeu, surtout sur les enfants très petits. Et là, je voudrais donner l'exemple exemple, nous avons dans l'association que je préside, dans le 44, un CESAD très précoce. L'État a investi beaucoup sur ces CESAD, ces services d'accompagnement pour petits, tout petits enfants autistes, hein, puisqu'ils y rentrent à l'âge de 12 mois, ils doivent y sortir 36 mois maximum, et c'est un investissement important. Ce CESAD, on est ébahis des effets que ça fait, et au moment où ils doivent rentrer à l'école, ben, évidemment qu'on va pas faire un dossier à 2 ans, voyez, pour savoir exactement le nombre d'heures d'AESH qu'il faut. Et du coup, là, c'est des enfants qui vont pas faire leur rentrée. Donc, parce que le dossier n'est pas prêt, et que du coup, sans AESH du tout, finalement, l'école n'en veut pas. Alors que s'il n'avait pas eu de diagnostic précoce, personne n'aurait su qu'il était handicapé, donc il serait rentré à l'école. Donc il y a aujourd'hui quelque chose d'un petit peu pervers dans le système, qui font que, mais que individuellement, pour les parents, c'est très violent. Et puis surtout, l'école, ça intimide, et que moi, quand je leur dis, bah écoutez, ça fait rien, mettez votre fils à l'école, et puis on verra bien.
C'est pas aussi simple que ça.
Non,
c'est pas aussi simple. On va partir en Corse. Marie-Ange nous attend. Bonsoir, Marie-Ange.
Bonsoir.
Vous êtes accompagnante.
Voilà, je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. Voilà, j'aurais une question pour Madame Cluzel. Alors, voyez-vous un lien de causalité entre le nombre de démissions parmi les AESH, le fait qu'elles perçoivent des salaires aux alentours de 600 euros par mois à cause des temps incomplets imposés?
Merci Marie-Ange pour cette question précise. Sophie Cluzel, voyez-vous alors un lien de causalité entre les deux?
Alors Marie-Ange, je veux vous répondre que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a porté vraiment dans le dialogue social et dans le Grenelle de l'éducation l'amélioration du statut des accompagnants d'élèves en situation de handicap. La problématique est en effet des temps hebdomadaires. L'école ne peut offrir que 24 heures, hein, c'est le temps scolaire, 24 heures. Et c'est bien pour ça que les PIAL, les pôles d'inclusion d'accompagnement localisé, qui sont vraiment les dispositifs qui doivent améliorer, hein, justement la mutualisation des AESH, leur mode de fonctionnement, leur affectation, l'emploi du temps, eh bien peut permettre d'avoir plus d'heures. Et c'est bien ça l'objectif, c'est d'avoir plus d'heures dans les collèges, dans les lycées. Madame, je ne sais pas à combien d'heures, mais dans les collèges, dans les lycées, j'ai tourné là depuis 4 jours, je suis en collège, école, lycée. J'étais hier au rectorat de Versailles. Le dialogue avec les ASH, vraiment pour améliorer les conditions de travail, est une réalité. Hein, et les horaires commencent à augmenter. Il y en a même qui sont à 35 heures parce qu'elles sont AESH ressources. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille.
On va poser la question à Anne Falciola.
Alors, je voudrais quand même repréciser quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Madame la Ministre. Il faut dire la vérité aux gens. Non, il n'y a pas un AESH quand il y a une notification individualisée pour suivre un élève. Maintenant, on arrive à 3-4 AESH différentes sur la même semaine pour des élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Donc ceux qui connaissent un peu l'autisme, et je sais que vous êtes au courant, c'est très compliqué pour eux. Et je maintiens, parce que je viens du terrain et je suis là pour porter la parole du terrain, les AESH, on est amenés, de par le fait qu'il n'y a pas assez d'AESH, à accompagner plusieurs élèves à la fois. Et parfois, dans le lot, dans une classe, il y a un jeune qui a une notification individualisée qui, elle aussi, est tronquée. Pour ce qui est du nombre d'heures d'accompagnement mutualisé, il a été réduit en miettes. C'est-à-dire que là où, avant, les établissements scolaires avaient de la marge pour permettre à l'accompagnement mutualisé de se faire dans de bonnes conditions, permettre à l'élève d'acquérir l'autonomie avec le temps dont il a besoin pour l'acquérir, on arrivait à préserver ça. Maintenant, c'est terminé. En fait, il y a une logique, il faut bien comprendre que c'est une logique qui est devenue purement comptable. C'est-à-dire qu'on a des équipes d'AESH qui sont affectées sur des établissements, il y a un nombre de notifications sur la table, et on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et c'est clairement ça qui se passe, et je me permets de le dire, c'est ma 14e année, j'aimerais vraiment pouvoir dire des choses qui vont bien. Vous doutez bien, j'aime mon métier, j'ai des collègues qui sont investis, qui sont sérieux, qui sont professionnels. Nous, on aimerait bien pouvoir dire autre chose. C'est pas le cas, donc je tenais à rectifier ça, parce que ça, c'est quelque chose, on peut pas laisser croire non plus aux parents, parce qu'après, quand ils découvrent, les parents, que c'est pas le cas, voilà, sur le volet de la rémunération, et je serais très...
Donc, je voulais juste vous rebondir sur ce que nous disait cette auditrice, sur les démissions, est-ce que c'est une réalité?
Ah mais oui, et des démissions... elles augmentent, hein. De toute façon, nous on est reçus, hein, les organisations syndicales par les rectorats. il y a bien des endroits où ils reconnaissent tout à fait qu'il y a eu une augmentation du nombre de démissions. Et pour cause, je veux dire, un AESH qui gagne en moyenne 700 euros par mois, parce que les AESH, plutôt que d'en embaucher, on va chercher des étudiants, on va chercher des services civiques qui, soi-disant, travaillent en binôme pour être formés auprès des AESH, mais sur le terrain, ils remplacent les AESH absentes. Donc, bref, on en arrive à des situations où les gens craquent, ou alors les gens partent. Nous, on a des questions, mais de plus en plus de gens qui se tournent vers nous. Je n'en peux plus. Des gens qui sont même CDIsés, parce que le CDI ne date pas de 2017, il date de 2014. Des gens qui ont des années et des années d'expérience, qui disent « je m'en vais, je suis happée par la pauvreté et mon métier a perdu son sens ».
Sophie Cluzel, vous entendez cette souffrance ?
J'entends, mais je voudrais aussi qu'on entende les améliorations, parce que ce que décrit madame, c'est peut-être vrai dans quelques coins, et je ne le nie pas. Pour en revenir juste pour les étudiants, c'est uniquement les zones urbaines qui offrent justement des compléments de salaire aux étudiants et qui sont en capacité de tout à fait être AESH, et c'est du temps partiel choisi. Donc tout le monde n'est pas en temps partiel subi, madame. Il y a des temps partiels choisis et j'ai tourné et je tourne. Et c'est un métier que je connais bien puisque mon association, la FNASEP, est à l'origine des AESH. 2300 AESH en 99, nous sommes maintenant 125 000 AESH, tout en contrat éducation nationale. Donc je voudrais dire que c'est pas ou tout noir ou tout blanc, c'est une réalité, il nous faut améliorer, et c'est bien pour ça que le ministre le porte dans le dialogue social, et qu'il y a une amélioration du statut, qu'il le porte aussi en grille indiciaire d'amélioration, puisqu'il y a des propositions qui ont été faites et qui sont vraiment inscrites maintenant dans la loi. Donc les inspections prennent en compte. Tout à l'heure, la dame parlait du Rhône. Le Rhône, c'est l'endroit où il y a la formation conjointe avec l'éducation nationale et les associations, la plus aboutie, avec des formations d'analyse de pratique, etc. Que ça soit inéquitable sur le territoire, j'entends tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas ou tout rose ou tout noir, c'est mitigé. On a fait des progrès colossaux, il en reste encore, et tout le monde en est très conscient. Mais encore une fois, ça s'améliore.
Un autre appel d'AESH, c'est Nathalie. Nathalie, on vous écoute.
Oui, alors Madame Cluzel, bonjour.
Bonjour. Vous appelez d'où, Nathalie ? On peut vous demander ?
J'appelle de Toulouse et je travaille en REP+. Donc d'accord. Déjà, je voudrais intervenir pour les enseignants, quand j'entends Madame Cluzel qui dit que les enseignants sont là pour s'occuper des enfants aussi. Donc je mets au défi Madame Cluzel d'avoir un enfant qui est avec autisme, un enfant avec comportement violent, ça veut dire qu'il s'enlève, il s'enfuit des classes, un troisième à côté qu'il faut que je sois à côté tout le temps. Donc ça veut dire déjà les enseignants, si vous avez la chance de pouvoir vous occuper de 22 petits en CP qui savent presque pas parler français, qui ont un niveau très bas, je spécifie en REP+, et gérer 4 enfants qui sont notifiés, moi je veux qu'elle m'explique. Franchement, moi c'est mon cas. Moi j'ai un enfant avec autisme à côté, je dois être 100% avec lui. J'ai un deuxième enfant, il faut que je le pousse. Donc je suis entre l'un, entre l'autre et entre le troisième. Le quatrième si je pouvais, parce qu'il y en a 4 dans la classe.
Merci. D'accord ? Merci Nathalie pour ce témoignage. Sophie Cluzel vous répond.
Alors, je pense que c'est ce que disait Madame Biette, c'est que là, il manque de la coopération avec le médico-social dans la classe. C'est ce qu'on veut développer, les classes autisme. On a développé, on a fait un maillage, on a ouvert encore plus 180 unités d'enseignement maternel autisme. Donc les moyens de dispositifs et de maillage sont là. Si cet enfant a un autisme, il a donc eu un diagnostic posé, il doit avoir de l'aide et de la coopération médico-sociale. Et je pense que c'est là, c'est cette complémentarité dans l'école, dans les murs de l'école, pour qu'en effet, les parents puissent retrouver du temps plein, c'est-à-dire retravailler, mais cette coopération, elle est indispensable. C'est pas un AESH qui va remplacer aussi l'appui de la coopération médico-sociale, de la psychomotricité, de la psychologue, c'est complémentaire. Et là, je pense qu'il manque un appui à l'enseignante aussi, des professionnels de rééducation.
Sophie Biette.
Je suis parfaitement d'accord avec Madame la Ministre. En revanche, nous observons aussi des tensions j'allais dire dans l'offre médico-sociale qui n'est pas extensible, et aujourd'hui notre offre médico-sociale elle est vraiment pas très loin en chiffres. Si je vais prendre l'association que je préside, parce que j'ai pas les chiffres nationaux.
L'UNAPI.
Voilà, l'ADAPI de Loire-Atlantique.
Pardon.
Bah oui, parce que l'UNAPI c'est 350 associations. Oui. Voilà, c'est un réseau. Donc il y a pas de chiffres nationaux, mais voilà, j'ai au moins les chiffres de l'association que je préside. Aujourd'hui, il y a 1000 offres en France. J'ai 1000 offres en France. Je rentre pas dans les détails des types de l'offre. Il y a aujourd'hui, j'ai plus de 600 notifications non satisfaites qui s'adressent à mon association. Et parmi ces 600, je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien. J'en ai 60, il y en a 60 qui sont en rupture de parcours. On les a vraiment identifiés, on les suit. Peut-être que ce petit garçon, il fait partie de ces 60. Voilà, il est pas dans le même endroit, mais il y a forcément des enfants aujourd'hui où on n'arrive pas à... Aujourd'hui, très clairement, il y a quand même une question de moyens. Nous, on est vraiment hyper partants, mais il faut qu'on ait les moyens. Et puis aussi que l'école... Alors, je sais qu'il y a des directeurs d'école dans lesquels ça se passe très bien et que normalement, ils doivent le faire, que l'école permette aux acteurs du médico-social, voire aux libéraux, de rentrer facilement dans l'école, oui, aux heures où l'enfant en a besoin. Non, mais je dis ça parce que aujourd'hui c'est un nœud. Il y a des écoles où ça se passe très bien, et puis d'autres où il y a une espèce de niette qui va crisper tout le monde. Et enfin, il y a
le problème de place aussi, de travail, de locaux
et de locaux aussi dans les écoles. Voilà.
Il y a donc tous ces problèmes, mais il y a aussi avant tout une reconnaissance de l'importance du métier que vous exercez, les AESH. C'est Louana qui va nous en parler. Bonsoir, Louana.
Bonsoir.
On me dit que vous êtes handicapée et que vous avez bénéficié, mais tardivement, de l'aide,
oui,
d'une AESH.
Effectivement, j'en ai bénéficié très tardivement puisqu'il a fallu attendre le lycée pour que j'ai eu donc une AVS, puisque c'était le mot à l'époque. Et j'en ai eu une différente chaque année. En trois années de lycée, j'ai eu trois AVS différentes. Tout simplement parce que ce métier, qui est pourtant un des métiers les plus importants à l'école pour les enfants handicapés comme nous, eh ben, il n'est pas valorisé, il est mal payé, et les personnes qui font ce métier, qui le font la plupart du temps avec beaucoup de dévouement, n'ont aussi une envie légitime de pouvoir avoir un niveau de vie normal, et dès qu'elles peuvent, ou dès qu'ils peuvent, puisque j'ai un frère qui a ESH depuis la rentrée de septembre, ils en choisissent un autre malheureusement. Et voilà, moi, ma question, ce serait: qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les AESH, pour leur donner envie de rester dans ce métier, pour les payer normalement, pour les considérer avec toute la considération qu'ils méritent, pour leur donner un vrai statut, parce que au final, ce sont les enfants handicapés qui en pâtissent et qui doivent ensuite passer par le chat d'une aiguille pour réaliser leurs rêves, puisque seulement 4% des personnes en situation de handicap en France accèdent à des études universitaires, comme ça a pu être le cas pour moi, puisque j'ai fait 5 ans d'études de droit ensuite et je suis greffière au tribunal maintenant. Voilà.
Merci Louana pour ce témoignage. Sophie Cluzel, il faut faire quelque chose là.
Bah déjà, je salue le parcours de Louana, hein. Je pense que c'est important. Alors, il faut faire quelque chose. On fait beaucoup de choses, alors que ça ne se traduise pas aussi vite partout en France. Mais encore une fois, les étudiants en situation de handicap, Louana en parle, nous les accompagnons aussi. Hein. Donc, il y a des référents handicap, des missions handicap dans chaque université. Ça, je pense qu'il faut qu'on le dise. Il faut qu'on aille plus vite, plus loin. Il faut qu'on travaille aussi sur les changements de lieu. C'est-à-dire quand on passe de l'école au collège, de collège au lycée, du lycée à l'université ou au CFA. J'étais dans un CFA tout à l'heure, 17 apprentis handicapés. Donc, on voit que ça progresse. Il faut qu'on simplifie la vie des familles.
En attendant, elle nous dit, Louana, qu'il a fallu attendre le lycée. Pour...
Oui, mais là, je ne sais pas à quelle époque, à quel moment. Voilà. Après, des AVS en lycée, il y en a. Des AVSA, j'étais dans le lycée, justement, dans les Yvelines. 17 enfants accompagnés, 5 AESH, un pool qui était mis en place, une ULIS, une unité localisée d'inclusion scolaire, c'est-à-dire un dispositif un peu plus collectif de remédiation qui est en plateau ressources. Donc on voit bien que sur les territoires, ça s'organise. Bien sûr que c'est compliqué, on le sait. Je suis maman d'une jeune fille handicapée de 25 ans, je peux vous dire, qui porte une trisomie, je peux vous dire que les progrès sont fulgurants. Et les AESH que j'ai connus, puisque j'ai été employeur d'AESH, je veux dire, sont considérés. Ils ont un statut maintenant. Ils sont tous éducation nationale. En revanche, qu'on améliore leur temps hebdomadaire, qu'on puisse améliorer leur salaire, bien sûr. Et c'est l'enjeu de le porter dans le dialogue social par le ministre de l'Éducation nationale. Il en a fait un vrai objet de toutes les attentions.
Autre revendication, c'est par mail que ça nous arrive, c'est Marion qui est AESH dans une école élémentaire de Lyon, qui nous dit: c'est ma troisième rentrée, les conditions de travail ne cessent de se dégrader, absence non remplacée, sous-effectif, la situation de notre école est loin d'être la plus catastrophique. Et elle ajoute: d'autre part, je ne comprends pas que ce métier soit si peu considéré, je n'ai toujours pas de formation. On dit un petit mot de la formation, Anne Falciola?
Oui. Alors, dans les textes, hein, on doit bénéficier à l'embauche en contrat de droit public, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu tout le parcours en contrat aidé qui n'est pas pris en compte dans l'ancienneté. Bref, donc on peut bénéficier de 60 heures de formation initiale. Formation totalement insuffisante. Vous vous doutez bien que quand on doit accompagner tout type de handicap dès lors qu'il y a une notification MDPH qui a besoin d'une réponse. Voilà, déjà ça. De plus, ça ne se fait pas en amont de l'embauche. C'est-à-dire que nous, à la CGT Éducation, on trouve que c'est une aberration totale qu'il n'y ait pas une formation qualifiante avant. On ne propulse pas les gens dans les écoles pour accompagner des élèves. Ce sont des élèves à part entière. L'enjeu est énorme parce que dès les premières années, s'ils sont pas dans, plus ou moins dans le moule, à la première occasion, eh bien, ils quittent le cursus ordinaire. Donc, il y a un enjeu énorme. Donc, la formation initiale, qui est censée arriver au plus près de l'embauche et qui arrive bien souvent encore plusieurs mois après, et là, sous prétexte, je dirais, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un prétexte du Covid, des AESH qui ont fait toute leur année sans avoir cette formation initiale, qui, je le redis, est complètement insuffisante.
Sophie Cluzel.
Alors, il y a la formation, en effet, des 60 heures, mais il y a aussi toutes les formations continues et les analyses de pratique. Et ça se pratique dans les inspections.
Mais déjà, la formation initiale qui arrive après ou qui arrive pas?
Ah bah, écoutez, le problème, c'est que les notifications des MDPH, elles arrivent aussi au fil de l'eau. Hein, et donc, il y a aussi des sessions de recrutement qui s'opèrent durant l'année. On les fait de plus en plus tôt, ces 60 heures, et puis surtout, il y a quand même de la formation d'analyse des pratiques. Et c'est ça, on ne va pas former les AESH sur tous les types de situations de handicap. Mais je voudrais dire le plus important, c'est qu'en septembre, c'est-à-dire à cette rentrée, la formation des enseignants, les 25 heures, sont obligatoires et seront faites dans toutes les instituts nationaux de formation des maîtres. 25 heures pour justement comprendre où sont les ressources, les adaptations pédagogiques. Et je voudrais dire aussi qu'en termes de formation, il y a Cap École Inclusive qui est une plateforme numérique ouverte en open data pour les enseignants, pour les AESH, pour les parents, pour le médico-social. Et ça, c'est grâce au Covid, hein, justement, il nous a fallu nous mettre en adaptation. Donc voilà, des outillages, des formations.
Mais des manques quand même, hein, vous le reconnaissez.
Mais bien sûr.
Je vous presse un petit peu.
Les manques, mais je voudrais aussi qu'on capitalise sur ce qui existe déjà, parce que les enseignants font un travail remarquable. Les enseignants se forment,
vous presser,
ils vont chercher.
Je vous parce qu'il y a du monde bien sûr, au standard. Pardon. Anne est à Rambouillet. Bonsoir Anne. Merci d'avoir patienté si longtemps.
C'est un plaisir. Je veux dire, pour une fois qu'on me donne la parole, je suis absolument ravie. Alors, je m'appelle Anne, j'ai 51 ans et je suis mère d'un enfant autiste. Qui est autiste et potentiel et haut potentiel intellectuel. Bon, grosso modo, c'est autisme Asperger. Il a 17 ans. Il y aurait tellement de choses à dire.
Il y a plein de choses à dire. Anne, si vous pouviez juste poser une question, ça me faciliterait la vie.
Alors, je vais commencer par un témoignage. Je me bats depuis ses 3 ans. Léo a présenté des troubles. Il avait 3 ans et demi. Ça a été un combat parce que mon fils, malgré une prise en charge précoce, c'est-à-dire 3 ans et demi, où il y a tout eu, pédopsychiatre, psychologue, il a eu des bilans. Il a eu des bilans aussi dans un hôpital, l'hôpital des enfants malades Necker, où il a été diagnostiqué non autiste à 6 ans. Et mon fils, à force d'acharnement et de combat, de prise en charge, pédopsychiatre, psychologue, psychomote, n'a été diagnostiqué qu'à 14 ans. 14 ans. Ça a été un combat acharné. Mon fils a actuellement 17 ans. Il fait sa deuxième seconde au lycée à Rambouillet. L'année dernière, je vous passe la maltraitance dont il a été l'objet. C'est-à-dire qu'en l'absence de diagnostic, à l'école...
Anne, je vais être obligée de vous demander une petite question parce que l'heure tourne. Est-ce que vous en avez
une? Qu'est-ce qu'on fait pour l'autisme? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des AESH? Je voudrais dire une chose. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit.
Merci Anne. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Vous me permettez qu'on y réponde, Anne? Je suis obligée parce qu'il y a encore du monde qui attend. Merci en tout cas de ce témoignage. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, Sophie Biette va répondre.
Madame, je vais essayer de répondre parce que c'est aussi un des combats en tous les cas que j'ai mené en tant que maman et qui a été mené aussi au sein de l'UNAPI. Et Il est vrai qu'il y a 17 ans, il n'y avait pas tout ça, mais qu'aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est le diagnostic très précoce. Et je suis d'accord avec vous. Alors là, là-dessus, il y a quelques dispositifs qui se mettent en place. Il y a 17 ans, ils n'étaient pas là. Moi, la mienne a 30 ans, ils n'étaient pas là non plus. Ça se met en place. En revanche, je vous assure qu'il y a encore du travail à faire, effectivement, auprès d'un certain nombre de médecins ou de psychiatres qui rencontrent ces enfants pour la première fois, pour que effectivement ils repèrent ces troubles. Je pense qu'aujourd'hui on y travaille tous. En revanche, ça prend du temps et on a encore vraiment besoin des familles comme vous là pour témoigner de l'importance du diagnostic très précoce. Merci.
Merci beaucoup Sophie Biette. Je voudrais qu'on prenne Jean-Charles qui est dans le Nord. Bonsoir Jean-Charles.
Oui, bonsoir.
Merci de nous avoir appelé. Vous êtes le père d'une enfant qui est en situation de handicap. On me dit que vous, a priori, dans votre département, vous nous dites que ça se passe plutôt mal, plutôt bien.
Oui, oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, ma fille est porteuse de trisomie 21. Alors, juste une incidente, l'avantage par rapport à l'intervenante précédente, c'est que le diagnostic, il est posé dès la naissance. Donc, on a, entre guillemets, on sait tout de suite quelque chose à faire. Alors, je voulais juste dire, de par mon métier, j'ai été amené à me déplacer. Donc, j'ai été dans deux départements, le Finistère et le Nord. Et je voulais juste, à mon avis, faire remarquer que la prise en charge de la scolarisation des enfants est différente selon les départements. C'est-à-dire que tant dans le Finistère que dans le Nord, on a manifestement des départements qui sont très volontaristes et que, bah, du coup, les parents, on est mieux aidés, mieux accompagnés. Dans le Finistère, il y a un CAMS qui nous a bien aidés. Enfin, voilà.
Merci Jean-Charles, merci mille fois. On a compris, ça dépend des départements. Il est 19h57, on va pouvoir conclure et vous allez avoir chacune la parole à tour de rôle. Peut-être Sophie Biette, vous souhaitiez réagir à ce que nous disait Jean-Charles?
Oui, je voudrais vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui quand même m'interpelle au niveau notamment de l'accompagnement, c'est cette différence d'une région et d'un endroit à l'autre. Alors je vais citer au niveau de l'éducation nationale parce que c'est vraiment un enjeu et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une très grande disparité du nombre d'enseignants qui sont nommés, voilà, mais pour accompagner dans les écoles spécialisées. Il y a des conventions qui se signent de façon très difficile dans certaines entre ARS et département et éducation nationale. Et je voudrais vraiment qu'il y ait une égalité des chances.
Voilà, on a compris que ça dépend aussi des endroits. Sophie Cluzel, allez, vous avez 10 secondes, pas plus, pour conclure.
Je voudrais dire à toutes les familles qui ont témoigné que nous sommes à la tâche pour améliorer au quotidien, rentrée après rentrée. Je voudrais souligner les progrès et je sais de quoi je parle aussi. On a fait des progrès. La scolarisation progresse. La coopération avec le médico-social est un enjeu colossal et nous serons à la tâche. Il y a les cellules d'écoute. Permettez-moi quand même de rappeler le numéro pour les familles, le 0805 805 110. Ne restez pas seul avec encore un programme.
Obligé.
Il faut absolument être accompagné.
De vous couper Anne Falciola en un. Allez, un mot, pas plus.
Très simple. Exercer le métier d'AESH, comme je viens de dire, c'est un vrai métier qui mérite
et indispensable,
un statut,
mais qui a besoin de moyens.
Qui a besoin de moyens et d'une rémunération cohérente sans avoir à traverser la rue.
Merci beaucoup à toutes les trois et à tous ceux qui nous ont appelés juste après les infos de 20h. Patricia Martin.
Bonsoir Claire Servageon.
L'heure philo avec qui ce soir?
Avec André Comte-Sponville pour un dictionnaire philosophique. C'est une nouvelle édition.
Chouette.
Troisième édition.
On va écouter ça. Merci Patricia. À tout à l'heure.